mars, à l'occasion du Salon du Livre, la Grande Table reforme son bouquin club. Quelle lecture nous recommande-t-il ? Relire les morts pour comprendre les vivants. Ils ont choisi pour nous, et pour vous surtout, des romans visionnaires ou tout simplement intemporels pour saisir les traits de l'époque actuelle. Avec nous jusqu'à midi et demi, les écrivains romanciers Maïlys de Kerangal, Jérôme Ferrari et Johann Sfar. Puis à partir de midi 55, dans la Grande Table des Idées, la bibliothèque étoilée de nos invités, c'est l'Europe, le thème de ce Livre Paris. Le journaliste essayiste Bernard Guetta, qui publie l'enquête hongroise chez Flammarion, premier volet de son Tour du Monde, nous rejoindra, accompagné de deux voix émergentes des médias alternatifs du journalisme, Salomé Saké de la revue Le Vent se lève et la youtubeuse Tatiana Ventose. Une émission concoctée par tous les programmateurs de la Grande Table, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Prix Goncourt 2012 pour le sermon de la chute de Rome, l'écrivain corse Jérôme Ferrari, notre invité à la rentrée dernière pour À son image aux éditions Actes Sud, un roman entre mémoire, deuil et représentation dans l'œil d'une jeune photoreporter est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et juste les titres, vous avez choisi deux livres.
Alors, Reinhard Jergel, Les Inachevés, et Shusaku Endo, La fille que j'ai abandonnée.
On en reparlera. Merci. Le père du chat du rabbin, bédéiste et romancier, Johann Sfar, notre invité en 2016 pour Comment tu parles à mon père, auteur à la rentrée dernière du Modèle vivant, le regard du professeur Sfar sur des problématiques d'aujourd'hui, des relations hommes-femmes au mensonge social. Vous êtes venu, Johann Sfar, avec une autre histoire de chat, mais pas celui qu'on croit. Bonjour d'abord à vous, Johann Sfar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. San Antonio, vous... Oui, il donne sa langue au chat.
Je vous ai proposé la langue au chat, comme j'aurais pu sortir un autre San Antonio. Et j'ai proposé qu'on réfléchisse à la Tour d'Ezra d'Arthur Koestler, parce qu'il est très pelu.
On en reparlera aussi. Maïlys de Kerangal est à vos côtés, messieurs. Elle a ouvert avec nous la saison de la Grande Table, la dernière, en août dernier, avec son roman Un monde à portée de main, paru chez Vertical, une exploration du monde de l'art et de l'illusion dans les yeux de son héroïne, peintre en trompe-l'œil. Bonjour Maïlys de Kerangal.
Bonjour.
Et on commence avec vous. Dans votre cercle des poètes disparus, il y a Francis Ponge, ancien résistant, poète révolté, qui a très tôt contracté la rage de l'expression, comme il le disait. Il croyait en l'utilité sociale du poète, puisqu'il est celui qui invente le langage. On va l'écouter.
Quand j'ai commencé à écrire, et puis encore beaucoup plus tard, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire une chose propre, comme une espèce de définition, description, n'est-ce pas ? Et je pensais vraiment que tout le monde avait les mêmes impressions des choses, n'est-ce pas ? Et que ça allait de soi. Et alors on m'a dit, mais c'est très original. Et j'ai été très surpris. Mais d'un autre côté, il se trouve que, bien qu'on pensât que ce fût très original, cependant, il y avait une réponse. Donc, mes sentiments particuliers touchent quand même certains, et davantage que les lieux communs quand ils sont redits.
Et vous avez choisi, Maïlys de Kerangal, le parti pris des choses, sorti en 1942. Alors pour lui, pour Francis Ponge, c'est vraiment le projet d'une vie, il a mis plus de 10 ans à l'écrire. Pourquoi ce livre ? Quelle originalité dans la démarche vous a particulièrement attiré ?
Alors d'abord, je pense que c'est un auteur dans le sillage duquel j'ai placé aussi mon travail. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et dans cette histoire de transmission des morts aux vivants, il est important. J'ai choisi ce livre parce que c'est un geste de restitution littéraire par la poésie d'un monde banal, quotidien, d'un monde élémentaire, prosaïque. Et en fait, Ponge va le restituer en choisissant un ensemble d'objets dans sa profondeur poétique. Mais il va d'abord regarder tout ce qui est banal, tout ce qui est les objets de consommation, la cruche, le cajot, le pain, et aussi peut-être la pluie. Et il va en fait nous demander de le regarder mieux et de regarder en fait ce qu'on ne regarde pas. Et redonner de la profondeur en fait à un monde que l'on se précipite de penser avant juste de le laisser advenir dans sa matérialité, dans son détail, dans sa précision. Et je trouve que c'est un livre en tout cas pour moi essentiel, fondateur, enfin c'est un livre très très important.
Alors premier enseignement, peut-être mettre de la poésie en toute chose, ça peut pas faire de mal, aujourd'hui encore, et renouveler aussi à travers les mots notre perception du monde, de ce monde qui nous entoure. Jérôme Ferrari, on peut imaginer que c'est une démarche à laquelle vous êtes sensible aussi par votre écriture. Francis Ponge, c'est un écrivain qui a compté pour vous?
Pas vraiment, parce que c'est purement un souvenir scolaire maintenant. Le parti pris des choses, j'avais dû étudier ça au lycée et je pense pas que je l'ai relu depuis. Mais je vais le faire.
Vous allez le faire. Et Johann Sfar, le fait aussi que Francis Ponge nous rappelle aujourd'hui encore la puissance illimitée du langage, du dessin et du langage.
Moi, ce qui m'a plu, c'est le portrait des objets. Et je crois me souvenir qu'il y a un texte dans lequel il explique que les rois n'auront jamais la chance d'ouvrir une porte et de tenir une poignée, parce que quelqu'un le fait pour eux. Et ce sont des choses. Moi, j'adore dessiner ce qui n'est pas dessinable. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on aimerait dessiner.
Alors, quelle porte vous allez ouvrir pour nous, Mélisse de Kerangal, à l'instant, avec Francis Ponge? Vous pouvez nous lire un extrait, choisir une des entrées.
Par exemple, le pain. La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition, sous la main, les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes, par exemple.
Il y a le pain, il y a les huîtres, il y en a énormément d'autres.
Le cajot, à mi-chemin de la cage au cachot, la langue française à cajot, simple caissette à claire-voie vouée au transport de ces fruits, qui, de la moindre suffocation, font à coup sûr une maladie. C'est-à-dire que aussi, toute cette expression est magnifique.
Johann Sfar, le plaisir de jouer avec les mots, les néologismes, les contrepétries, les distorsions ou autres objets, comme aurait dit Francis Ponge, on les retrouve aussi chez Frédéric Dard, alias San Antonio. Pourquoi vous nous offrez aujourd'hui Ma langue au chat? C'est le 73e de la série. Vous venez de nous dire que vous auriez pu en choisir beaucoup d'autres, voire tous les autres.
Oui, celui-là ou un autre, mais il n'avait pas peur d'aller faire l'imbécile en Iran, à l'époque où l'Iran était un sujet touchy aussi. Frédéric Dard, c'est avant tout une méthode de travail, c'est une hygiène linguistique, et c'est une manière de traiter le réel sans avoir peur de l'altérer, de l'ébouriffer. Et je sais qu'à titre personnel, avant de commencer à écrire, très souvent j'ouvre un Frédéric Dard et je lis quelques pages. C'est un journaliste. En général, quand les journalistes écrivent des fictions, c'est insupportable. Lui, c'est formidable parce que il fait ça pour bouffer au début. Il fait du roman de gare, il fait partie de ces gars qui doivent tomber un roman en deux ou trois jours parce que c'est nécessaire, parmi ses copains lyonnais. Et petit à petit, il y redécouvre cette littérature française qui a pas peur d'être ridicule et qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Évidemment, c'est la filiation de Rabelais. Il y a aussi tous ces espèces d'écrivains de droite qui mettaient le style en avant, parfois pour le pire. Et Dard, il les caresse un peu, mais je ne sais pas qui a dit « Dard, c'est comme Louis-Ferdinand Céline qui adorerait les Juifs ». Forcément, ça peut que me plaire.
Bon, vous m'avez dissuadé d'écrire un roman, ça y est, j'y pensais, mais c'est terminé. Je sais que mon été, je pourrais le passer à autre chose, puisque les journalistes écrivent des romans catastrophiques.
Non, mais
vous avez totalement raison. En revanche, vous nous avez donné envie de relire Frédéric Dard, mais pourquoi exactement? Si vous vous adressez à ceux qui sont là avec nous, et à ceux qui nous écoutent derrière le poste sur France Culture.
Parce que tout simplement, selon moi, c'est le plus grand auteur du XXe siècle. Mais en plus, mon fils de 15 ans vient de le découvrir et il adore ça. Ça veut dire que sans aucun préalable, sans aucune explication, on met un San Antonio dans les mains d'un gamin et il explose de rire du début à la fin. Et je vais pas défendre la thèse que c'est un auteur féministe parce que c'est tout l'inverse, mais c'est un auteur qui fait tellement tout exploser qu'on sort de là. J'ai l'impression qu'on sort de chez lui un peu moins bête.
On va peut-être aussi sortir de cette lecture en devenant féministe parce que lui, il était moins ou l'était pas.
Tout l'enjeu, c'est comment on écrit ça aujourd'hui. Comment on ferait aujourd'hui pour écrire ce genre de choses.
Johann Sfar, encore un mot sur Facebook l'an passé à propos de San Antonio. Vous écriviez ne me confiez surtout pas la Pléiade parce que c'est lui que je mets dedans et direct, à savoir les 175 volumes de San Antonio avec en guise de cerise sur le gâteau cette formidable histoire de France. San Antonio, c'est Céline qui aime les Juifs, c'est Goscinny qui va sous la ceinture et c'est Jean de La Fontaine qui s'autorise des écarts de langage. À propos de l'introduction de cette histoire de France, il dit, vous dites, vous l'interprétez comme tel en tout cas, pour être français, il suffit d'habiter la France, car à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres pays, ce ne sont pas les Français qui font la France, ils auraient plutôt tendance à la défaire, mais la France qui fait les Français. Relire San Antonio, relire Frédéric Dard aujourd'hui, c'est aussi résoudre en partie cette question complexe qui a refait surface, celle de l'identité, notamment celle de l'identité française, de qui nous sommes.
Oui, c'est pas un humaniste, c'est un type très vache, mais c'est un type qui aime les personnes. Il aime les gens. On peut pas lui faire de procès en racisme parce que ça survit pas à la lecture de 10 pages de ce qu'il écrit. Et pourtant, il a peur d'aucune insulte, il a peur d'aucune grossièreté. Et moi, je vois un vrai, il y a une vraie beauté à lire Frédéric Dard aujourd'hui et ça simplifie les rapports entre les humains, selon moi.
Jérôme Ferrari, on en vient à vous. Au rayon des écrivains disparus dont les livres parlent encore au présent, selon vous, il y a le japonais Shusaku Endo qui semblait s'imposer à vos yeux. Pourquoi ?
Alors, mes deux choix, c'est deux auteurs que je connais depuis pas très longtemps, en fait. Hein. Shusaku Endo depuis 2 ans et Reinhard Tiergel depuis 3 semaines. Donc c'est très très récent, et j'avais découvert Shusaku Endo parce que le dernier film de Scorsese, Silence, est fait à partir d'un de ses romans, et donc je l'ai lu à cette occasion-là, et j'ai lu tout ce qui a été traduit. Il y a quelque chose d'assez étrange, parce que Shusaku Endo vient d'une famille japonaise catholique. Alors je ne sais pas s'il était lui-même croyant ou pas, Mais on retrouve des problématiques ou des histoires qui sont assez bernanosiennes dans un monde culturel qui n'est pas du tout. Et dans chacun de ses romans. Et celui qui m'a le plus ému, bien que Silence me semble être un plus grand roman que La fille que j'ai abandonnée, c'est celui que
vous avez choisi. Ouais. Ouais. La fille que j'ai abandonnée, qui est publiée en France en 94 chez De Noël, réédité chez Folio, un peu moins connu que Silence. Parce que adapté au cinéma, d'abord au Japon, puis par Martin Scorsese. Pourquoi ? C'est d'abord un choix de langue. C'est la langue de cet écrivain japonais que vous affectionnez particulièrement, qui vous fait réfléchir et vous emmène ailleurs. Ou c'est aussi parce qu'il montre du rapport au spirituel, au religieux, Japon, et finalement dans toutes nos sociétés.
Le texte est écrit vraiment très très simplement, et je pense que le japonais est une langue qui est si structurellement différente. Du français, que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment conserver ce qui fait la singularité stylistique dans la traduction, en tout cas, et je ne peux surtout pas aller le vérifier. Mais La vie que j'ai abandonnée, il me semble que c'est un roman sur la sainteté, hein, et qui part d'une histoire extrêmement triviale. C'est un étudiant désargenté à Tokyo en 46 ou 47 qui trouve une jeune ouvrière pour coucher avec elle, puisque c'est son. C'est son obsession de garçon au début et qui la traite extrêmement mal et qui l'abandonne et qui toute sa vie a une forme de regret et va la recroiser à plusieurs reprises. Et on apprend, le livre étant pas construit totalement sur le suspense, je peux spoiler un peu sans scrupule, et elle a une tache sur le bras, elle va se retrouver dans une léproserie. Et voilà, je ne peux pas en dire plus.
À lire absolument. Mais là, vous nous donnez deux livres, on va parler du deuxième juste après, que vous avez découvert plutôt récemment. Il n'y a pas quand même des grands classiques qui vous ont accompagné, vous, toute votre vie, donné envie d'écrire
Si, mais c'est constant. Et quand on me demande de faire une liste,
Vous êtes incapable d'en choisir deux, trois.
Oui, voilà. D'ailleurs, j'en avais donné quatre. Hein. J'ai gardé les moins connus, mais... Pour moi, je pense que le roman français qui m'a le plus marqué, c'est La route des Flandres de Claude Simon, c'est certain.
Maëlys de Kerangal, le livre dont nous parle à l'instant Jérôme Ferrari, vous le connaissiez, La fille que j'ai abandonnée ?
Non.
Cette
non.
écriture-là ?
Non, ça me donne envie de le lire.
Moi, je ne connais rien, moi.
Ben voilà.
Je suis curieux.
C'est aussi le principe de cette émission, c'est vous donner quelques idées de lecture. On est ensemble jusqu'à 13h30, mais d'abord jusqu'à 12h30 pour parler de ces romans qui nous éclairent sur le temps présent avec nos invités, les romanciers Johan Sfar, Jérôme Ferrari et Maëlys de Kerangal, ici en direct de Livre Paris, en direct et en public. Bienvenue à tous, France Culture. Il est midi et quart.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Maëlys de Kerangal. Autre histoire de femme, celle de la femme changée en renard, du Britannique David Garnett. Marie et femme, Sylvia et Richard se promènent en forêt, ou se promènent en forêt, lorsqu'elles se transforment soudain en renarde. Extrait.
Toute ma sympathie est pour le renard, sachez-le. Une belle petite bête, intelligente, que les hommes et les chiens stupides poursuivent d'une cruauté toute gratuite.
C'est un parti pris.
Admettons. J'ai retrouvé dans les archives de ma famille la miniature d'une charmante petite grand-mère qui avait des boucles rousses et un nez un peu pointu. Son nom était Marie la Renardine. Peut-être qu'un lointain cousinage, qu'un mystérieux mariage nous a liés à cette race.
Sylvia, quel enfant vous êtes!
Ne riez pas. Mon père a eu longtemps un renard apprivoisé avec lequel j'ai joué toute mon enfance. Le hasard pur n'existe pas, non. Il doit y avoir une signification secrète à nos tendresses et à nos aversions. D'ailleurs, je ressemble certainement à cette Marie Renardine.
Pardieu, s'il en est ainsi, Madame Tébric, c'était une jolie femme.
Alors, vous aurez peut-être reconnu dans cette fiction de 1947 la voix de Christiane Delisle et surtout celle de Jean Villard. Qu'apprend-on de nous, Maëlys de Kerangal, à travers la métamorphose de cette Madame Tébric?
Oui, il faut raconter un peu l'histoire. Alors, savoir, c'est un livre qui est plutôt une fable, qui est plutôt un conte fantastique. Donc c'est ce couple, Richard et Sylvia, qui sont des gens un peu de la, une espèce d'aristocratie anglaise et qui se promènent ensemble dans la campagne. Il y a une chasse qui passe et ils se tiennent par la main. Ils sentent qu'elle tire un peu, que Sylvia tire un peu, Richard sent qu'elle tire un peu sa main. Ils se retournent et elle est devenue un renard. Alors ça, c'est les coups de théâtre que seule la littérature peut provoquer, peut déclencher. Et c'est déjà une image quand même assez merveilleuse. Hein. Et ensuite, cette femme va tout au long du livre avancer vers la sauvagerie, se métamorphoser vraiment en animal sauvage. Mais l'amour va subsister. Ce qui est bouleversant dans ce livre, c'est que c'est d'abord un livre d'amour et d'un amour absolu. C'est-à-dire que Richard, il ne va pas du tout se détourner d'elle, il va vivre avec sa femme renard, donc ils vont continuer leur rite un peu bourgeois de prendre le thé, il va lui faire confectionner un petit manteau, etc. Et puis après, il va devenir un peu horrifié quand elle va rentrer en ayant déchiqueté un lapin, etc., parce qu'elle devient de plus en plus sauvage. Elle va avoir des renards, elle va avoir 5 renardos dont il va accepter d'être le parrain, donc il est jaloux, mais il passe au-delà de ça, et en fait, à la fin, elle va mourir tuée lors d'une vraie chasse dans ses bras. C'est un conte assez merveilleux et qui, je trouve, apprend énormément, enfin nous transmet quelque chose de très fort, je trouve, sur l'absolu de l'amour, mais aussi sur une espèce d'hybridation de nos natures humaines et de notre animalité possible. Voilà.
Voilà, elle aurait pu manger votre chat.
Oui.
Jonathan Farr. À ne pas mettre cette femme renarde entre toutes les mains. Jérôme Ferrari, vous aviez les yeux écarquillés. En entendant cette histoire qui broie du noir, comme vous savez le faire.
Et je ne connaissais pas du tout ce texte non plus.
Donc on dira une fable surtout sur le couple aussi et sur la nature humaine.
Oui, et pour moi c'est aussi un livre auquel je pense en termes de trésor de fiction. C'est-à-dire que c'est, vous savez, le moment où elle se transforme en renard, c'est absolument ces trois mots, ces deux lignes. Il se tourne, elle est un renard. Et un roman peut provoquer ça. C'est absolument sidérant. Là, il y a d'autres romans qui peuvent évidemment qui ont provoqué ce genre de métamorphose. Et moi, ça me touche énormément des livres qui mettent en scène des gens qui se, enfin, en tout cas, des métamorphoses, des évolutions, des gens qui changent. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de très fort. Et évidemment que ça brasse l'animalité, l'humanité. Et dans cette histoire d'amour, justement, on a l'impression qu'il revisite un peu les thèmes de... D'abord, il est désespéré. Ensuite, il s'accroche à cet amour. Et puis, il y a la jalousie. Et enfin, il y a une forme de tout est exaucé dans la dernière scène où elle meurt dans ses bras. Et je trouve que c'est rare de lire un roman d'amour qui en dit autant sur, voilà, je le redis, une forme d'absolu pour le coup. Il y a pas de limite à cet amour-là, même si cette femme est devenue devenue une créature avec laquelle il ne peut même plus parler, en fait, hein. Il n'a plus de langage en commun. Il la comprend par les regards, il la comprend par il la caresse. Alors Ponge caresse le monde à sa manière. Ponge le touche, Ponge le regarde, et là c'est autre chose. Je crois que c'est deux livres qui disent beaucoup de mon ce que j'aime lire.
Jérôme Ferrari, Reinhard Jirgel, c'est votre deuxième choix. Alors par esprit de contrariété, vous avez choisi un auteur vivant, un écrivain allemand.
J'avais oublié.
Oui, né à Berlin-Est en 53, publié principalement après la réunification. Les Inachevés paraît en Allemagne en 2003, 2007 en France, chez Kidam Éditeur. Le destin de 4 femmes sur fond d'expulsion de la population allemande des Sudètes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une fresque aussi sur l'exil forcé. Pourquoi ce titre? Pourquoi les inachevés? Pour nous faire comprendre déjà l'histoire, alors, avant de nous dire pourquoi vous l'avez retenu.
Reinhard Virgule, pour moi, là, c'est vraiment, il me semble, il faut que j'attende de laisser peut-être passer un peu de temps, mais pour moi, c'est vraiment une découverte majeure. Hein. J'ai lu le livre vraiment il y a trois semaines. J'avais même jamais entendu parler de l'auteur avant. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment un travail formel assez incroyable. Le texte est plein de parti pris qui en plus normalement ont plutôt tendance à m'exaspérer. Il y a des points d'exclamation, d'interrogation au milieu des mots. Il y a l'utilisation de signes égal moi-même est souvent écrit moi égal même. Et il y a des mots mis en fractions, enfin des choses comme ça qui pourraient paraître excessivement formalistes et qui peut-être peuvent rebuter quelqu'un. Mais si on rentre dedans, je trouve que ça donne une énergie et une puissance à la langue qui est vraiment extraordinaire. Hein. Les descriptions de camps de réfugiés en Bavière pour les Allemands qui viennent des Sudètes sont faites d'une manière hyper réaliste, complètement hallucinée, et c'est, à mon avis, c'est bien autre chose que des trucs formels hein, qu'on a. Hein. C'est vraiment quelque chose qui fait résonner la langue autrement. Là, je suis en train d'en lire un deuxième, et si on rentre dedans, je pense que c'est... Moi, je suis rentré dedans tout de suite, j'ai eu absolument aucune difficulté, ça m'a emporté dès la cinquième ligne.
Un véritable casse-tête de traduction pour Luma à sa sortie. Une prose exigeante, sophistiquée, sensuelle, inventive et étrange pour le monde des livres. On va écouter la voix de Reinhard Jirgel expliquant son rapport à la page blanche.
Wenn Sie einmal akzeptieren, dass Körpersignale in der Schrift enthalten sind, dann wird mit einem Mal...
Dès que vous acceptez que les signaux corporels sont contenus dans l'écriture, et bien tout de suite...
Dann wird mit einem Mal eine Buchseite wie eine Bühne. Auf der sind Schauspieler, Objekte, die müssen sie arrangieren.
La page devient une scène avec ses acteurs, avec ses objets qu'il faut mettre en scène.
Et si vous aviez écouté France Culture, Jérôme Ferrari, en 2007, et notamment l'émission Les Mardis Littéraires, ici en direct du Salon du Livre, vous auriez découvert, 10 ans plus tôt, Reinhard Jirgel. Alors, vous regrettez. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Non, pour pas passer à côté d'un autre géant de la littérature, tel que vous le formulez aussi. Une fois encore, au dehors de la question de la langue, qu'est-ce qui retient votre attention dans la narration, peut-être dans l'histoire qu'il choisit d'investir à travers ce roman?
Les Inachevés, c'est une histoire sur trois générations, hein, en fait. Hein. Les deux premières parties du livre tournent autour de quatre femmes, la mère, ses deux filles et la petite fille, et la dernière partie est écrite par le fils de la plus jeune qui est en train de mourir d'un cancer dans un hôpital. Il y a quelque chose au niveau de la découverte de l'état chaotique de l'Allemagne en 45 qui est vraiment qui m'a vraiment énormément intéressé, et la dernière partie sur le rapport à la mort est bouleversante. Je pense vraiment que c'est un chef-d'œuvre quand même.
Johannes Farr, on en arrive à votre deuxième et dernier choix, votre dernier conseil de lecture. C'est cette fois l'auteur de la trilogie Génie et folie de l'homme, du zéro et de l'infini. Un auteur très complet et complexe aussi, très total, le Hongrois Arthur Koestler, avec un titre, Des voleurs dans la nuit, autrement dit La tour d'Esra, que vous avez cité tout à l'heure. Je vous propose qu'on l'écoute et je vous donne la parole juste après pour nous dire pourquoi lui.
J'étais dans le parti pendant 7 ans, oui. J'ai quitté parce que j'étais face en face avec la réalité. Les crimes de Staline, les horreurs du stalinisme. Tout le monde pouvait s'en renseigner. Il y avait des documentations publiées par des dissidents, par les gens qui se sont évadés des camps russes, des camps de concentration russes, etc. Mais les gens ne voulaient pas lire les documentations, ils ne voulaient pas faire face à la réalité. Ils aimaient leurs illusions, ce qui est très humain, comme excuse psychologique individuelle. Mais ce n'est pas valable pour excuser l'atmosphère politique qui règne en ce temps.
Mon étiquette, c'est l'anticommunisme, c'est la guerre froide. Ce n'est même plus une étiquette, d'ailleurs c'est un tatouage. C'est à cette question du journaliste qu'il répondait, qui lui rappelait ces mots à lui. Il disait d'ailleurs que c'était plutôt des mots qu'on lui avait attribués. Et c'est de cela dont il s'expliquait dans cet extrait qu'on vient d'entendre. Alors là, c'est un autre auteur qui s'intéresse à la fonction de l'illusion, comme l'a presque évoqué à l'instant Maëlys de Kerangal, à ce que l'illusion fait dans la tête des gens et qui se confronte, lui, à la réalité. Oui. Cette réalité, c'est ce qu'on retrouve dans ce livre que vous avez choisi, Johannes.
Oui, alors là, pour le coup, c'est un vrai journaliste et c'est un grand romancier. La question de pourquoi Arthur Koestler a disparu de notre paysage culturel, à mes yeux, est gravissime, parce que c'est une raison idéologique. C'est l'auteur du pessimisme, l'auteur de la lucidité, et même quand il veut embrasser une idéologie, il écrit sa critique sans le faire exprès. Dans La Tour d'Ezra ou Les voleurs dans la nuit, c'est le même livre qui a deux titres, il essaye d'aller dans un kibbutz dans les années 20 en Palestine, sous mandat anglais, et il essaie de participer à cette création d'un foyer national juif, comme disaient les Anglais. Et tout à sa passion, il écrit aussi la critique de ce rêve national. Et c'est ce qui est passionnant chez Koestler, c'est qu'avec lui, on arrive à croire en rien, parce que c'est un auteur plein de rage, les yeux grands ouverts et plein de ressentiments, et dans une période qui est étouffée par le camp du bien et dans laquelle plus personne n'ose penser rien, Koestler, vous l'invitez à table et il vous dit que c'est froid ce qu'il y a dans l'assiette. Et je le trouve salubre. Et vous savez, quand j'étais petit, on s'en souvient pas, il y a 30 ans, Romain Gary, c'était mal vu. Aujourd'hui, c'est un auteur qui est au firmament. Je parie que dans 30 ans, Koestler sera là où est Gary aujourd'hui, c'est-à-dire des auteurs qu'il est impardonnable d'avoir oubliés.
Et c'était quelqu'un qui avait vu juste à l'époque et qui était aussi visionnaire pour
vous. C'est pour ça qu'on ne lui pardonne pas. Mmh. On pardonne jamais à un type qui vous dit que ce dont vous rêvez ne marche pas du tout.
Merci beaucoup, Johannes Svaar. Merci à vous, Jérôme Ferrari. Merci, Maëlys de Kerangal. On va essayer de récapituler ensemble les titres des quatre ouvrages que vous nous avez... Non, des deux plus deux plus deux, ça fait six. Des six ouvrages que vous nous avez recommandés tous les trois ensemble réunis. Maëlys de Kerangal, Francis Ponge.
Le parti pris des choses.
Et David Garnett.
Lady into Fox, La femme changée en renard.
Et de votre côté, Jérôme Ferrari.
Reinhard Jergel, Les inachevés. Et Shusaku Endo, La fille que j'ai abandonnée, dont je crains qu'ils soient d'ailleurs tous les deux épuisés.
Ils vont être édités suite à cette émission. On en est presque sûr. Johannes Svaar, on revient donc sur Arthur Koestler dont vous venez de nous parler.
Malangocha de Frédéric Dard et La tour d'Ezra d'Arthur Koestler.
Merci beaucoup à tous les trois. Pour ma part, je vais rester fidèle à mes premières amours et je n'ai pas besoin d'explication puisque tout est dit dans cet extrait sonore où l'auteur Vladimir Nabokov parle lui-même de son œuvre.
Mes lecteurs...
France Culture présente la 41e édition.
Mes lecteurs favoris, savourent le livre sans se préoccuper, j'espère, de l'auteur, qui est un gros bonhomme chauve, pas intéressant du tout. J'ai relu Lolita au moins six fois depuis sa publication, et en toute franchise, en toute modestie, j'avoue que j'en ressentais chaque fois le genre de plaisir très pur que vous donne le souvenir d'un beau paysage ou d'une bonne action.
Merci encore à tous les trois. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour la suite de la Grande Table avec la Bibliothèque européenne de nos invités, Bernard Guetta, Salomé Sake et Tatiana Vantos. Ce sera à partir de 12h55.